Bienvenue dans cette émission Philo Duo avec nos enseignants de philosophie. Tout d'abord, présentez-vous.
Bonjour Marion, bonjour Sacha, je suis Guillaume Pénisson, professeur de philosophie au NP2I et j'enseigne également la spécialité humanité, littérature, philosophie.
Bonjour à tous les deux, moi je suis Alexis Beaulieu et j'enseigne cette année seulement la philosophie.
Moi j'ai une petite question, faut pas la prendre personnellement, mais est-ce que les professeurs de philo sont tous un peu dans leur univers ?
Alors je pense qu'un prof de philo te répondrait, qu'est-ce que tu entends par univers ?
C'est compliqué à répondre, mais... Dans leur monde, genre... je sais pas comment dire. Voilà.
Un des enjeux de la philosophie, c'est justement de s'interroger sur ce qui fait le fait qu'on est, nous sommes dans un univers commun, hein, ce qui fait qu'on peut, justement, on partage le même univers. Après... un petit peu le mythe du professeur dans sa bulle, c'est ça ?
Oui, un peu.
Pas plus qu'un autre enseignant, je sais pas ce que t'en penses, Alexis. Mais...
Moi, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Il me semble que l'expérience a été intéressante. En fait, en philosophie, on s'intéresse beaucoup aux définitions, au sens des mots. Et on s'aperçoit très souvent qu'en fait, les individus, lorsqu'ils échangent, ne parlent pas de la même chose. Et comme le professeur de philosophie, par son métier, s'intéresse justement au sens des mots, il arrive parfois qu'il donne un sens qui ne soit pas celui de tout le monde. Ce qui peut donner cet effet un peu bulle, l'impression que le professeur de philosophie est un peu, comme disait ma grand-mère, en train de pédaler à côté du vélo.
J'adore. Mais du coup, est-ce que la philo, c'est que des questions ?
C'est d'abord des questions... en tout cas davantage des questions que des réponses, et des questions pas n'importe lesquelles, des questions qu'on appelle problèmes, c'est-à-dire finalement où les réponses ne sont pas si évidentes que ça, où on peut être justement tiraillé dans sa pensée entre des directions opposées ou différentes. Donc c'est des questions et des problèmes.
Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Guillaume. Je pense que ce qui fait vraiment la spécificité de cette discipline, c'est qu'elle s'intéresse moins, comme tu l'as dit, aux réponses qu'aux problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un problème ? C'est précisément un type de question un peu bizarre qui, semble-t-il, quand on l'examine un peu rapidement, donne l'impression d'admettre deux réponses, au moins, qui ne peuvent pas être vraies en même temps, et que pourtant on ne peut pas départager. Et l'enjeu de la philosophie, ça va être à la fois de comprendre où ça coince et d'essayer d'avancer le plus loin possible jusqu'à ce point d'équilibre qui n'est pas une réponse tout à fait satisfaisante, mais qui est un petit peu meilleure que le paradoxe dans lequel on était coincé au début.
Okay. Par exemple, vivons-nous tous dans le même monde ? Dans le même univers ?
Moi, j'ai une question encore. Je ne suis pas encore concerné, mais pour noter les copies, est-ce que vous les jetez dans les marches d'escalier ?
Alors ça, ça fait partie des grandes légendes autour de la philosophie. L'idée que soit la subjectivité du professeur viendrait influencer la notation. On entend souvent aussi les élèves dire « Mais si le prof n'est pas d'accord avec moi, est-ce que je vais avoir une mauvaise note ?» etc. Alors bien entendu, ce sont des légendes. C'est vrai qu'on corrige avec ce qu'on est, avec son histoire, et que l'objectivité absolue, elle n'existe pas. Néanmoins, nous, on dispose d'une grille d'évaluation qui fixe des attendus. Et tout à l'heure, on parlait de la notion de problème, par exemple. Eh bien, s'il ne nous appartient pas de juger de la façon dont l'élève a posé le problème, en revanche, le fait qu'il ait n'est pas posé un problème, ça rentre dans les critères de notation. Est-ce que la pensée va être argumentée ou est-ce que l'élève va se contenter d'affirmer des opinions ? Est-ce que le discours sera soutenu par des références de nature académique, philosophique ou qui viennent d'autres matières ? Ou est-ce que ce sont juste des pensées un peu traversantes qui lui viendraient au moment de la rédaction ? on dispose comme ça d'un ensemble de critères qui nous permettent de dire cette copie répond à la commande ou au contraire elle n'y répond pas. Mais ce que pense l'élève en tant que tel, ça vient pas influencer la notation.
Et il y a également souvent un consensus hein, assez fort finalement entre nous, entre collègues de philosophie, collègues professeurs de philosophie, entre ce qui distingue justement une bonne copie hein, d'une copie moyenne et d'une mauvaise copie. Finalement, les notations qu'on peut donner se recoupent assez souvent. Il peut y avoir des écarts dans nos manières de noter, mais c'est pas si important qu'on pourrait le croire, et c'est finalement pas forcément beaucoup plus important ou plus important tout court que dans les matières scientifiques, par exemple.
Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer la philosophie un peu comme des maths littéraires ?
Historiquement, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, la philosophie est associée aux filières littéraires, d'abord parce qu'elle a été une des matières principales de ce qui s'appelait la L autrefois, et qu'elle est aujourd'hui intégrée en enseignement de spécialité dans humanité, littérature, philosophie. Mais à l'origine, en fait, chez les Grecs, la philosophie, c'est la tentative de comprendre le monde au moyen de la raison. Et en fait, philosophie et science, ça veut dire la même chose à l'origine. Platon, au fronton de l'Académie, avait inscrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre », voulant dire par là qu'en fait, pour faire de la philosophie, il fallait au préalable avoir une très bonne maîtrise des mathématiques. Donc en fait, à l'origine, mathématiques et philosophie sont très liés. De là à dire que la philosophie est une mathématique littéraire, je ne sais pas. Mais...
Et, Marion, en plus, je ne vais pas dire que votre question était rhétorique, mais vous avez étudié des textes, par exemple, de Wittgenstein, donc un philosophe plus contemporain, cette année. Et justement, on a des penseurs comme lui qui vont circonscrire de façon assez forte, justement, le propos philosophique à une grammaire logique. Donc oui, il y a des liens assez forts, et c'est en tout cas, je reviens un petit peu sur la distinction que j'ai faite par rapport à la notation, mais la philosophie est tout autant une matière scientifique que littéraire, et elle a en tout cas une assise logique, rationnelle, très forte, elle s'est construite comme ça.
Qui va aussi varier en fonction des auteurs, c'est-à-dire que si on lit l'éthique de Spinoza, par exemple, c'est vraiment une tentative de description géométrique, pour expliquer le monde, prouver l'existence de Dieu, etc. etc.
Ok. Du coup, est-ce que la philo, c'est génial? Vous le recommandez en spécialité?
200%. Hein.
bien sûr, on peut que recommander de faire la philosophie. D'ailleurs, la philosophie, elle est enseignée à toutes les terminales donc générales et technologiques en France. Il y a aussi des expérimentations pour l'enseigner dans la voie professionnelle. Il y a aussi d'autres essais, pratiques, expériences dans le milieu, à l'école primaire. Et alors, après, c'est pas la même philosophie qui est pratiquée. C'est la même philosophie, mais c'est une pratique un peu différente en fonction des publics, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui joue pour les élèves qui font de la philosophie, dans leur manière de devenir citoyens, de réfléchir justement les problèmes de la vie humaine, c'est-à-dire de leur expérience, des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés dans leur situation vraiment pratique tous les jours, des choix d'orientation, de vie de couple, de décisions politiques, que sais-je.
Ouais, je rejoins absolument tout ce qui a été dit, et j'ajoute, je profite de ta question, pour préciser que la spécialité HLP, en fait, elle mène à beaucoup plus de choses que ce que l'on imagine parfois. Notamment, souvent, il y a des élèves qui veulent faire, par exemple, Sciences Po, qui se disent qu'il faut prendre absolument HGGSP pour faire Sciences Po. C'est pas vrai du tout. C'est pas parce que le nom n'apparaît pas dans l'intitulé de la spécialité. En fait, j'ai envie de dire qu'une spécialité HLP, à part pour des gens qui aspireraient à une carrière qui exige une certaine spécialisation scientifique comme médecine ou l'ingénierie, ça vous prépare non seulement aux écoles de journalisme, éventuellement à l'enseignement, mais aussi au concours des écoles de commerce, C'est vraiment une matière qui amène à, comme tu l'as très bien dit, s'interroger sur de nombreux aspects du monde et qui en fait irrigue un petit peu une pluralité de champs disciplinaires qui peut vraiment être très utile pour de nombreuses carrières, quoi.
Et aussi, on, tout à fait, et dans un monde où la rhétorique, hein, le pouvoir de la parole sont de plus en plus importants, pardon, y compris en politique, mais sur les réseaux sociaux, etc., et la communication, quoi. Et en fait, il y a des enjeux derrière qui sont justement étudiés de manière assez fine et détaillée en spécialité HLP.
Programme de première.
Ouais, voilà, programme de première notamment. Et puis il y a des prolongements aussi avec le programme de terminale et de terminale HLP. Et aussi pour motiver, quand même, on fait des super projets au LP2I avec les spécialités, avec les élèves de spécialité HLP. En première et en terminale. Cette année, on a un projet en première qui est conduit donc en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme qui concerne les droits du futur, donc en relation avec une exposition de photographie qui a été réalisée par l'agence Magnum qui va être exposée là dans la galerie du LP2I. Et les élèves donc, de spécialité travaillent, sont accompagnés par des comédiens et par nous, leurs enseignants de philosophie et de lettres, travaillent donc avec des comédiens et un slammer également, à justement imaginer, mettre en scène ces droits du futur, les réfléchir également. Donc ça, c'est des projets qui se mènent un petit peu au long cours dans l'année, qui sont très stimulants, qui permettent de travailler des compétences orales, notamment, qui donnent de l'oxygène aussi dans les apprentissages, dans la manière d'enseigner. Enfin, c'est une spécialité qui permet de faire plein de choses. En terminale, il y a aussi plein de projets. Par exemple, lundi prochain, alors avec les élèves de première également, mais vous pouvez dire, Marion, peut-être à ma place, vous allez visiter la maison...
Marie Casares.
Voilà, avec un projet...
Tout à fait.
Notamment...
Portant sur le théâtre particulièrement, effectivement, suite au prix Sony Laboutancy à laquelle participe toute la classe.
Voilà.
J'ajoute juste, je me permets d'en remettre une couche, désolé, mais c'est parce que comme on est en pleine période Parcoursup, j'ai discuté avec plusieurs élèves et je me suis aperçu qu'il y en avait une partie importante qui ne connaissait pas en fait cette possibilité de parcours, toujours pour, pas pour vendre l'aspect HLP, il ne faut pas le dire comme ça, mais disons pour se dire que ça peut servir à plus de choses que ce qu'on imagine parfois. Si jamais il y a des élèves qui ont des projets pour travailler justement en radio ou dans l'édition, dans le monde des médias, du cinéma, etc. En fait, un parcours qui est assez valorisé aujourd'hui, c'est de commencer par une formation de base assez solide en lettres, que ce soit par l'intermédiaire de la fac ou d'une hippocagne et d'une cagne. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de passerelles qui existent entre une licence, je dirais, de base formation sciences humaines lettres et une école de communication, de commerce ou un institut d'études politiques, que ce soit Sciences Po ou un autre, qui permettront par la suite d'aller vers vraiment des métiers qu'on n'aurait pas imaginés. Parfois, il y a des élèves qui se disent « Mais moi, je ne veux pas faire une école de commerce parce que je suis mauvais en maths. » Mais en fait, on s'en fiche. Les écoles de commerce sont très ouvertes au profil littéraire. Il ne faudrait pas se mettre des barrières, par exemple, pour ça.
On peut ajouter aussi l'architecture. Par exemple, on a des élèves souvent qui sont intéressés par les... C'est vraiment très très varié, comme dit Alexis. Il y a, ça donne plein de possibilités en fait de faire HLP.
Okay. Moi j'ai une dernière question qu'on n'a pas marquée. Est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'il faut rester jeune un peu pour être prof de philo? Faut tout le temps être dans l'actualité, faut être super ouvert, faut tout le temps rester jeune un peu en fait.
Tu veux prendre ou est-ce que...
est-ce que c'est le vieux qui parle ou...
pas tant de différence d'âge que ça. Bah, moi, je sais pas trop ce que veut dire jeune. Ce qui est hyper important quand on fait de la philosophie, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est pour ça que les trois périodes de la vie durant lesquelles on se montre le plus philosophe, c'est l'enfance, l'adolescence et, me semble-t-il, la vieillesse. C'est de préserver une certaine peut-être innocence ou en tout cas une capacité à s'étonner des choses.
Oui.
Vraiment, qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie ? C'est à un moment s'arrêter et se demander pourquoi, se dire mais finalement je fais ça tous les jours dans ma vie, mais est-ce que je me suis posé la question du sens ? C'est préserver cette capacité à s'étonner devant les choses. Quoi. Donc peut-être que oui, effectivement, si c'est ça que tu entendais par jeune, c'est oui. peut-être la seule chose dont on a vraiment besoin pour faire de la philosophie.
Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec Alexis, c'est l'étonnement philosophique qui existe dès la petite enfance. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. On peut aussi, pour faire un lien avec la jeunesse aussi, savoir dire non. Dire non. C'est le philosophe Alain hein, qui dit bah, philosopher, c'est apprendre à dire non. C'est garder un petit peu cet esprit peut-être un peu rebelle, en tout cas, ne pas s'endormir face à tout ce qui est dit, ne pas avoir une pensée comme ça qui boit, qui absorbe un petit peu tout sans réfléchir ce qui est dit et vers là aussi où on veut nous conduire. Donc ça, dire non, c'est comment dire aussi une manière de rester jeune.
Ok, merci. Je crois qu'on a fini. Ouais, merci. Hein.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Philo Duo.